La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce dimanche un peu particulier puisqu'il s'agit d'un dimanche d'assemblée générale. On aurait tort de croire que c'est un lieu administratif. L'assemblée générale est un lieu hautement spirituel car il dit l'identité de notre Église, qui est une église où les fidèles ont leur mot à dire dans l'évolution de leur communauté, de leur façon de prier Dieu et leur façon d'annoncer l'Évangile. C'est donc un moment extrêmement important que nous allons vivre ensemble, en collaboration avec l'Assemblée Générale de l'Entraide, qui est sans doute indissociable de l'œuvre que nous avons en annonçant l'Évangile dans les temples. Nous avons aussi à l'annoncer avec l'entraide auprès de tous ceux qui cherchent un secours. Nous avons donc la joie de vivre ce moment ensemble et de réfléchir ensemble à la conduite que nous allons adopter pour l'année qui vient, et en faisant bien sûr le bilan de ce qui s'est passé l'année passée. Et donc je suis très heureuse de vivre cette première assemblée générale pour moi avec vous, et j'espère que vous serez nombreux à rester pour entretenir ce dialogue et ce débat dans notre Église qui est si précieux. Je tiens aussi à accueillir nos amis pasteurs qui sont ici. Des pasteurs d'Allemagne sont venus ici. Ils sont en séminaire en France et découvrent le protestantisme français. Et nous avons la grâce de les compter parmi nous ce matin. Bienvenue à vous. Malheureusement, je ne parle pas allemand et je ne sais même pas vous dire ça en allemand. Mais en tout cas, bienvenue. Je vous invite à chanter ensemble le premier spontané dans les livrets que vous trouvez au début du recueil de psaumes. Je vous invite à vous lever. Dieu, et ce matin, nous louons Dieu avec ce psaume, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la fidélité m'accompagnent chaque jour et je reviendrai à la maison de mon Père pour la longueur des jours. Que cette louange du psalmiste soit la nôtre ce matin, et je vous invite à chanter ensemble le psaume 92, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Thank you. invite à vous asseoir. Rappelons-nous les commandements du Seigneur et ces deux commandements qui sont présents dès le début des témoignages, dans le Premier Testament comme dans le Second. Il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Et ce commandement ne peut pas aller sans le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ce commandement soit le nôtre aujourd'hui. Nous replaçons devant le Seigneur et nous pouvons nous remettre devant ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous à pardonner sans blesser ceux à qui nous pardonnons. Par le Christ, notre frère. Amen. Mais le Seigneur pardonne, il redit sa grâce sans cesse aux hommes qui se tournent vers lui. Et il renouvelle son pardon en disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix ». Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce et pour chanter ensemble. Partageons ensemble une confession de foi, celle que je vous propose ce matin. Je crois en Dieu sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom. Je n'ai de lui aucune image. Mais toujours dans ma vie, il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est là mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, nous lirons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et au chapitre 8, deux récits qui semblent très voisins, vous allez le voir. Chapitre 6, à partir du verset 30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému. parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire « Le lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande « Combien de pain avez-vous ? » « Allez voir. » Après s'être informés, ils répondent « 5 et 2 poissons ». Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples, pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Et dans le chapitre 8, Jésus se trouve cette fois-ci en pays non juif. Chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appelle ses disciples et leur dit « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier, ici, dans un lieu désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous ? » « 7 », dirent-ils. Alors, il enjoint à la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les 7 pains et rendu grâce, il les rompit et se mit à donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000, et ensuite il les renvoya. Voilà les 2 textes que nous allons méditer aujourd'hui. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 193 dans les louanges et prières, dans les livres bleus. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous invite à la prière avant de pouvoir commenter ces textes. Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Permets que nous puissions trouver dans les mots de la Bible des mots pour aujourd'hui et que ton évangile résonne dans nos vies. Amen. Le geste de la multiplication des pains est raconté 6 fois dans la Bible. 1 fois dans l'Ancien Testament, 4 fois dans le Nouveau Testament et 2 fois particulièrement dans l'Évangile de Marc. C'est donc un motif extrêmement important que la Bible reprend sans cesse comme quelque chose qui doit parler à nos cœurs et à nos intelligences avec à chaque fois des variantes. Quand 2 multiplications des pains sont racontées dans le même évangile, les variantes du texte montrent que le propos se déplace. On prend le même motif, une foule fatiguée qui a besoin d'être nourrie. Et l'on change certains éléments du récit. L'écart entre le récit attendu la deuxième fois et le récit raconté, entre le récit déjà raconté et le deuxième, provoque un changement de regard sur cet épisode miraculeux. Il nous oblige à constater les changements de termes du code habituel par un nouveau code. Il nous oblige à nous convertir à une nouvelle compréhension. Les multiplications des pains ne parlent pas toujours du même nombre de pains. Elles ne mettent pas en scène les disciples dans le même rôle. Elles ne mettent pas en scène les mêmes territoires. Et il ne reste pas toujours la même quantité de pain, ni de corbeille de pain après que tous aient mangé. Ces éléments qui changent, c'est un code qui varie, et chaque élément est donc une façon de traduire l'événement dans un contexte différent pour nous faire comprendre que l'on parle à chaque fois d'un autre problème que dans la multiplication des pains précédentes. Chez Marc, cet écart, c'est le pas de côté qu'il nous faut pour comprendre ce qui distingue la mission de Jésus auprès des Israélites de sa mission auprès des non-juifs, des païens. Les disciples ont tantôt 5 pains et 2 poissons, tantôt 7 pains et quelques petits poissons. Dans le premier récit, il reste 12 corbeilles de morceaux de pain et de poissons, alors que dans le deuxième récit, on parle de reste, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne dit pas exactement le même reste. Quelques constantes nous éclairent aussi. Dans les 2 récits, Jésus est ému par le peuple, et particulièrement par un peuple qui est seul, laissé sans soutien, sans guide. Dans les deux récits, c'est une foule différente qu'il faut nourrir, mais c'est le même Dieu qui pourvoit. Et à chaque fois, nous sommes dans un lieu désert. La nourriture, symbole de vie, le pain, nourriture de base, sont évidemment liés à ce que Dieu fait pour son peuple. De la manne, le pain du ciel donné dans le désert au peuple d'Israël qui marche vers la terre promise, au dernier pain de la veuve de Sarepta. Les histoires de pain qui manquent ne manquent pas dans la Bible. C'est que le Dieu qui sauve son peuple est avant tout dans la culture agraire, le Dieu qui pourvoit quand la famine sévit. C'est le Dieu qui fait que Jérémie a du pain près de lui pour continuer à prophétiser. C'est aussi le pain qui fait que Ruth rencontrera Boaz et pourra nourrir et se nourrir. Elle pourra nourrir sa belle-mère Naomi, subvenir à ses besoins et lui donner une lignée. L'histoire du peuple que Dieu sauve, c'est l'histoire d'un peuple qui s'en va aussi précipitamment sans avoir eu le temps de faire lever son pain et qui fait confiance à Dieu pour partir dans un lieu désert sans avoir l'assurance d'y trouver du pain en chemin. Quant aux poissons, ils sont liés au début de l'Église chrétienne. Jésus appelle ses disciples au bord du lac pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Et ce sont des poissons grillés qu'il mangera quand ses disciples le verront, ressuscités au bord de ce même lac. C'est aussi le symbole des premières communautés chrétiennes clandestines où se développe la littérature des évangiles. Pour se reconnaître entre frères de la voie, comme on appelait ce nouveau courant, on montrait une ligne d'un dessin de poisson et l'autre montrait l'autre ligne. Les deux lignes mises ensemble formaient ce poisson, signe de reconnaissance. On savait alors qu'on était entre chrétiens et qu'on ne risquait rien. Ce poisson qui se dit « ictus » en grec, qui est l'acronyme des attributs de Jésus dans la tradition. Jésus, Christos, Théos, Uios, et Soter. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Voilà déjà des symboles très lourds de signification. Mais quand on leur ajoute les chiffres qui leur sont associés, le code alors s'épaissit encore. Dans le premier récit, il y a 5 pains comme les 5 rouleaux de la Torah. Le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces livres marquent l'alliance faite entre Dieu et son peuple. Ce sont les textes fondateurs. Et les comparer à du pain, c'est se souvenir que le peuple conduit par Dieu ne manquera de rien s'il se nourrit de ces paroles qui racontent la fondation d'un peuple et la loi qui régit ses agissements, qui racontent le Dieu jaloux de son peuple, attaché à lui par l'alliance. Pour les deux poissons, c'est plus difficile, mais on peut les rapprocher d'une deuxième alliance accomplie en Jésus, le Christ. Il y a aussi les groupes de 100 et de 50 qui rappellent un épisode de l'Exode qui a un lien aussi avec la loi de Moïse. En Exode 18, versets 13 à 23, on raconte que Moïse rend la justice pour tout le peuple. Il est épuisé et il s'assied le matin et ne peut se relever que le soir tant il y a à faire. Et son beau-père Jéthro lui dit « Ce n'est pas bien d'agir ainsi tout seul ». Tu t'épuises et tu n'en verras jamais le bout. Il lui conseille de s'entourer de juges nommés pour faire ce travail. Et c'est là que le peuple est découpé en groupes de 100 et de 50 qui dépendent tous d'un juge nommé par Moïse. On est dans la même figure d'épuisement que dans la multiplication des pains. Jésus se retire dans un lieu désert avec ses disciples parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont sans cesse suivis par des foules qui ont besoin d'eux. Ceci donne un sens particulier à l'image de cette foule regroupée dans ce lieu désert. Jésus n'est-il pas, au bout du compte, en train d'administrer le nouveau peuple de Dieu, en le remettant sous l'autorité de ses disciples? L'évangéliste Marc n'est-il pas en train de nous raconter comment cette transmission s'est faite? N'est-on pas dans un texte testament où l'autorité du Christ est transmise à ses disciples? Et puis évidemment, il y a les 12 corbeilles de reste. 12 évoque presque à coup sûr les 12 tribus d'Israël. Est-ce le reste de ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus? Ceux qui n'ont pas reçu cette nouvelle parole, cette nouvelle interprétation de la loi? Ces 12 tribus qui ont besoin, elles aussi, du pain de Dieu, que mangeront-elles? Elles ont pourtant déjà reçu les 5 rouleaux de la Torah. Les 5 pains partagés sont déjà pour le peuple de Dieu. Est-ce à dire qu'ils ne l'ont toujours pas mangé, cette parole de salut, toujours pas digérée, assimilée? Peut-être s'agit-il d'autre chose que d'une critique du peuple de la première alliance. Peut-être s'agit-il des 12 corbeilles destinées au bout du compte aux 12 apôtres, qui doivent aller nourrir de leur témoignage ceux qui attendent un berger ailleurs, plus loin, dans les lieux non-juifs. Car voilà aussi un autre symbole très fort dans la Bible, ce fameux berger dont nous avons lu le psaume tout à l'heure. Quand Marc raconte l'histoire de la deuxième multiplication des pains en pays païen, au chapitre 8, il vient de raconter que Jean le Baptiste a été tué. Tous ceux qui allaient au bord du Jourdain sont donc sans berger. On a tué celui qui prêchait la conversion à une nouvelle alliance. Il est temps d'élargir le cercle, d'aller annoncer à tous ceux qui ont besoin de salut, qu'ils soient israélites ou non, qu'ils aient suivi Jean ou un autre prophète. C'est la multitude qui est dans cette misère spirituelle. C'est le mal le pire pour le peuple de Dieu que de se retrouver sans berger. Et de nombreuses fois dans son histoire, Israël a demandé à Dieu de lui envoyer un nouveau berger. Ce fut le cas pour Moïse, pour Josué, pour David. Faire paître le troupeau de Dieu et prendre soin de lui, c'est tout le propos du prophète Ézéchiel, par exemple, qui parle de ce peuple en mal de bon berger. Dans ce lieu désert, Jésus enseigne quantité de choses à cette foule sans berger. Il était passé sur l'autre rive pour échapper à la foule. Et comme Moïse, il a besoin maintenant de déléguer pour que son témoignage ne se perde pas dans son épuisement. Il continue à enseigner, mais il faut que les disciples prennent le relais. Quand les disciples pensent renvoyer ce peuple affamé, affamés de la parole de Dieu, affamés de salut, pour qu'ils aillent acheter à prix d'or le pain qu'il leur faut pour leur subsistance, pour qu'ils se débrouillent seuls à trouver un nouveau prophète peut-être, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples pensent ne rien avoir pour cela, du moins ils pensent qu'ils n'ont pas suffisamment pour une foule si nombreuse. Ils pensent tout de suite qu'il faut qu'eux-mêmes aillent acheter du pain. Ils n'ont pas pensé à regarder ce qu'ils avaient là, tout près d'eux. Alors Jésus leur montre ce qu'ils ont et ce qu'ils ont considéré comme quantité négligeable. Ces fameux 5 pains, ces fameux 5 rouleaux, cette loi de Moïse qu'ils ont en eux, qu'ils ont entendue, et ces 2 poissons. Ces 2 alliances, ces 2 cultures, ces 2 promesses successives, celle de Moïse et maintenant celle du Christ, les disciples ont ça en eux et ils ne savent que faire avec. Ils n'avaient même pas vu que c'était là leur subsistance et leur moyen d'annoncer le salut de Dieu. Et en pays non-juif, ils en ont 7 chiffres d'accomplissement de Dieu, signe que le Dieu d'Israël devient le Dieu de la multitude, signe que tous les hommes sont concernés par ce salut désormais. Avec ça, les apôtres peuvent faire des merveilles, multiplier le témoignage qui nourrit et qui rassasie, étendre à tous ceux qui ont faim et soif de justice la nourriture du Dieu Sauveur. Dans ces deux récits, nous sommes invités à nous demander qu'avons-nous, nous aussi, à notre disposition pour multiplier les paroles de salut. Avons-nous pensé à regarder en nous-mêmes ce que nous pourrions partager avec les autres de cette parole qui un jour nous a sauvés, nous aussi? Jésus apprend à ses disciples à ne pas regarder ailleurs qu'en eux-mêmes. « Commence par toi-même », a-t-il dit à ses disciples, en quelque sorte, en leur disant « Donnez-leur à manger vous-même ». C'est avec ce qu'ils ont en eux, avec la communauté qu'ils forment aussi à 12, puis avec quelques convertis venant d'ailleurs, comme ces quelques poissons qu'ils ont, qu'ils peuvent eux aussi apporter au monde ce salut que Jésus leur annonce. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à regarder ce que nous avons reçu dans notre foi. Nous avons parfois l'impression que c'est bien peu de choses pour annoncer le salut à d'autres et que seul Jésus pourrait faire cela bien mieux que nous. Nous avons parfois l'impression que la faim de ceux qui sont avec nous et qui demandent de l'aide, qui demandent qu'on s'occupe de leur vie, qui demandent que Dieu les regarde et qui ne savent pas où il est, nous avons l'impression que cette faim-là est beaucoup trop grande, beaucoup trop tenace pour que nous puissions la rassasier. Les paroles de salut qui nous font vivre nous-mêmes doivent être retrouvées en nous pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. C'est la mission d'une église, la mission de cette collégialité, où ceux qui ont décidé de suivre la voie, cette parole bienfaisante du Christ, peuvent eux aussi essaimer à la multitude des morceaux de pain qui nourrissent. Les multiplications des pains dans l'évangile de Marc sont des discours sur la délégation et le mandat, en quelque sorte, laissés aux croyants par Jésus. Lui-même n'a-t-il pas pris cette parole de Dieu « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma joie » pour aller sur les chemins et dire aux autres « Vous êtes vous aussi les enfants de Dieu ?» Le geste de la multiplication des pains, c'est le geste de la multiplication des dons, des engagements, des révélations reçues, des témoignages vécus. Tout ce qui fait vivre notre foi et nous est donné par grâce. Cette attitude de compter les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique, pour nous-mêmes, et même parfois dans les expériences les plus difficiles de la vie, où nous savons que Dieu nous a aidés à traverser. Cette attitude est une école de la reconnaissance. Comment voir en soi la grâce que Dieu fait à chaque homme et comment la communiquer aux autres. Cette foule dans le désert a besoin que d'autres leur apportent ce qu'ils ont déjà reçu peut-être, mais qu'ils ne voient pas. Jésus est ému par cette foule sans berger. Il est ému par ces gens dont personne ne prend soin. C'est pourquoi il va leur montrer le don de Dieu et leur donner la responsabilité de faire de même. Même lui, le crucifié, lui, le ressuscité, ne peut faire sans nous. Nos églises sont des lieux déserts, des lieux où nous sommes retirés du monde pendant un temps, pour pouvoir nous convertir de nouveau. Des lieux déserts où l'on peut réfléchir à sa propre faim. F-A-I-M et F-I-N aussi. Où l'on peut ressentir le creux à l'estomac, celui où Dieu pourrait se faire une place. Une faim d'amour, une faim de connaissance, une faim d'humanité, une fin de divin dans nos vies, une fin de consolation, une fin de justice. Chacun, pour peu qu'il ait lui-même reçu dans ce lieu la nourriture spirituelle qui lui manque, peut s'engager pour perpétuer ce geste de la multiplication des pains et faire comme les disciples de Jésus, avec ce qu'ils ont en eux. C'est une immense chaîne de témoignages qui se perpétue jusqu'à nos jours, dans laquelle certaines personnes prennent soin d'autres personnes au nom d'un homme croyant qui était ému par le manque de ses contemporains. Alors vers qui ira notre multiplication de la promesse de Dieu ? Vers nos enfants peut-être, vers nos proches, vers ceux que nous voyons errer, vers ceux que nous savons dans la détresse ou le dénuement, vers ceux qui cherchent Dieu dans nos églises. Nous ne pouvons le savoir d'avance. C'est le Seigneur qui décide. Mais nous pouvons nous demander quel enseignement avons-nous reçu pour devenir témoins ? Quelle promesse nous habite et nous fait vivre ? Et nous verrons qu'il nous faut sans cesse revenir nous asseoir avec la foule pour être rassasiés et repartir vers nos frères qui ont faim de Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous comptions maintenant dans notre cœur nos pains. Amen. Voilà, je laisse la parole à notre président du conseil presbytéral. Nous écourtons un tout petit peu le temps de culte pour pouvoir tenir cette assemblée générale dont je vous parlais.
Bonjour à tous et à chacun. Quelques annonces. D'abord, merci à Béatrice Cléromazir pour sa prédication qui est une fort belle introduction à notre toute prochaine assemblée générale et bienvenue à nos amis de passage, qu'il me soit aussi permis de saluer tout particulièrement la présidente du conseil presbytéral de la Martinique qui est de passage parmi nous. Alors, à l'issue de l'assemblée générale, pour celles et ceux qui y participeront, je vous indique qu'il y aura un buffet froid, salmono, auquel vous êtes tous très cordialement invités. Les activités de la semaine, lundi, il y aura un cours d'hébreu biblique pour les avancés, animé par Christophe Siemensky, de 19h à 21h, c'est ça le Verne. Mercredi 3 avril, ce sera le grec biblique pour avancés, par Edith Lounès, toujours Salverne, de 14h30 à 16h30. Le jeudi 4 avril, répétition du chœur de l'oratoire, et vous savez que si vous avez envie de chanter avec le chœur, il faudra rencontrer préalablement Fabien Aubé, chef de chœur. Et samedi 6 avril, nos amis de l'Atoll et nos amis organistes organisent régulièrement tous les premiers samedis du mois des concerts d'orgue. Cette fois-ci, nous aurons un récital à 16h, donc, au Temple, qui nous permettra d'écouter Frédéric Blanc, qui est titulaire à Notre-Dame d'Auteuil, qui donnera donc un programme tout à fait remarquable. Premier samedi, donc, de chaque mois à 16h. Dimanche prochain, c'est le pasteur Marcel Manoël qui présidera ce temps de culte. Alors, je ne terminerai pas les annonces sans vous annoncer que notre autre organiste titulaire, Sarah Kim, est maman d'une petite Mélisande. Donc Aristide, son grand frère, a maintenant une petite sœur. Elle est née le 21 mars dernier et, coïncidence, c'est le jour de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Pour une organiste, vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, c'est le temps de l'offrande et merci. Et dernière information, le repas dimanche prochain, c'est le repas paroissial. Donc pour des questions d'intendance et de pratique, pensez à vous inscrire soit au stand de librairie, soit à passer un petit coup de fil pendant la semaine au secrétariat. Merci à tous.
Je vous invite à la prière. Seigneur, permets que notre cœur soit ému par ceux qui cherchent ton regard. Permets, Seigneur, que nous soyons toujours émus par nos contemporains qui ont besoin de ton salut. Donne-nous des cœurs grands, accueillants, et qui permettent à chacun de pouvoir dire sa détresse. Seigneur, permets que nos lieux de culte soient des lieux où l'on puisse dire sa faim, où l'on puisse exprimer son désir, ses besoins, où la prière monte vers toi et soit communion fraternelle pour tous. Donne-nous, Seigneur, des lieux déserts qui nous permettent de nous tourner vers toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent pour multiplier tes pains, qui sont dans des lieux de culte, mais dans d'autres lieux aussi, non confessionnels. Pour tous ceux-là, tous ceux qui aident leurs contemporains à survivre, à traverser leurs épreuves, donne ta bénédiction et ta force, Seigneur, pour que sans cesse, ils aient la possibilité de trouver en eux ce qu'ils vont multiplier à l'extérieur. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ont faim de consolation, toutes les familles qui ont, dans ce lieu même, été endeuillées dernièrement, que nous soyons capables de puiser en nous la miséricorde et la tendresse pour la partager avec eux. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Bénis chacun et donne un apaisement à ceux qui sont épuisés. Nous te le demandons, car nous sommes tes enfants comme le Christ est ton Fils. Et ensemble, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici c'était le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons faire place à la parole des hommes qui essaient de s'accorder à cette parole. Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu avant de poursuivre avec l'Assemblée générale. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.